Bonjour monsieur, à quand une émission qui défendra les valeurs plus traditionnelles, parce qu'actuellement ce n'est que des émissions qui défendent que des valeurs pour les humiliés, les gens, je veux dire les petites gens ou les gens de gauche. Donc à quand une émission qui défendra les valeurs? Merci, au revoir, Charles.
Ça, c'est ça, c'est ça. Et allez, et allez, et allez, et allez, et allez, et allez, 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 allez. La démocratie. La démocratie, la démocrature, la démocratie, la démocrature, la dictature, la dictature prolétarienne. Et allez, allez, allez.
Allô, donc le meeting est fini. Je suis juste à côté de Clémentine Autain qui va peut-être vous dire un petit bonjour.
Allô, si c'est Daniel Mermet sur le répondeur, oui. C'est Clémentine. Eh bien, des baisers bordelais. À très bientôt.
Merci. Voilà. J'en reparlerai du reste après. Ciao.
Merci et merci.
Chirac, il est menacé de mort. Ah bon? Par qui? Par qui? Par les loups. Les loups. Ouh! Chirac, du balai.
Oui, bonjour. Je me permets de vous appeler par rapport à l'émission des bagagers de Roissy. En fait, travaillant sur Roissy, ça me choque un petit peu d'entendre ce genre de propos. Depuis des semaines et des semaines, on parle des bagagistes de Roissy et tous de confession musulmane. Ce qu'il faut savoir aussi sur Roissy, quand on y travaille tous les jours, c'est que les bagages abandonnés, quand on en parle à la télé et quand les gens se déplacent, en 10 minutes c'est réglé. Il faut savoir qu'un bagage abandonné, en général, on attend entre 45 et 50 minutes les démineurs. Donc ça aussi, ça peut être un acte terroriste. Donc il peut à tout moment y avoir une bombe et il faut attendre 50 minutes avant que le déminage arrive. Et d'autre part également au niveau des portiques de sécurité, là ils ont renforcé la sûreté au niveau des bagages à main, mais il faut savoir que c'est toujours le même nombre de staff qui y travaillent, sachant que la plupart du temps sur les portiques, il faut que le personnel soit 5 et la plupart du temps ils ne sont que 3 ou 4. Donc à tout moment il peut passer quelqu'un sans vraiment y faire sans qu'on y fasse attention. Et la plupart du temps, ces gens aussi au portique n'ont pas forcément une formation, une grosse formation. Donc c'est des gens qu'on a besoin, donc on met sur le tas. Et donc voilà.
Oui, monsieur Mermet, eh ben, il y a une telle culpabilité maintenant de la part des Français que, oui, colonisation, guerre d'Algérie, tout ça. Alors maintenant, les Français, ben, ils sont muselés. Et il y a une véritable autocensure de tout ce qu'ils peuvent dire. Parce que la moindre parole est retournée contre les Français. Et puis, ma nièce qui cherche un logement à Paris, non. Il suffirait qu'elle soit un peu plus sombre, on lui a dit. Avec des enfants, elle aurait la priorité, bien sûr. Parce que, ah non, bien sûr, les Français n'ont pas de logement. Mais les étrangers même, je sais, et ça je l'ai déjà vu et entendu, hein, eh bien, il y a des étrangers, pourtant sans papier, qui ont des logements neufs de la part de la CAF, monsieur Mermet.
Eh, hey, vas-y, là, viens, tu veux qu'on... Hey, vas-y, là, eh, hey, au fait, t'as la guitare pourrie, là, la guitare, là. Je vais attendre la guitare. C'est la guitare, là. Explosez, mon pote, là. Explosez la guitare.
Monsieur Vermet, est-ce que vous avez seulement visité les dessous de Roissy? Figurez-vous que ma fille travaille dans les douanes, elle a eu l'occasion de visiter les dessous de Roissy. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers. Quand ils sont arrêtés parce qu'ils sont arrêtés pour vol, on est obligé de les relâcher, figurez-vous, et de leur redonner du travail. Et il y a, si vous visitiez seulement, vous verriez le nombre de valises éventrées, de choses qui passent. Les douaniers peuvent le dire. Ils n'ont pas dit ouf qu'il y a des trafics qui passent, qui arrivent de l'avion et qui sont déjà ressortis de Roissy. Alors, monsieur Mermet, arrêtez de les plaindre, s'il vous plaît. On en a marre, vous savez. Plus que marre.
Bon, d'accord, on a compris. Ben, on va quand même continuer aujourd'hui à Roissy avec les barbus. Et malheur aux barbus, ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit quand même dans le répondeur de là-bas, si j'y suis. Et on continue cette étrange affaire quand même, hein, de ces salariés de la zone sensible de Roissy qui ont vu leurs badges supprimés, dont les badges ont été supprimés. Les badges, c'est l'accès à cette zone sensible, mais c'est aussi l'accès au travail. Et puis, ben, ils se sont défendus, ils sont allés au tribunal. Il y en a un certain nombre dont les badges, auxquels les badges ont été restitués, d'autres pas encore. C'est une étrange affaire. Le problème, c'est que on n'arrive pas à trouver de preuves de leur responsabilité, de leur culpabilité. Il y a les dossiers sont étrangement vides. En dépit de ces affirmations, de ces à peu près, de ces affabulations diverses et variées que le lieu lui-même inspire. Un endroit évidemment comme Roissy, les avions, le côté un peu nulle part, hors sol, suscite évidemment nombre de fantasmes et d'à peu près. C'est par là où ce qu'on va aujourd'hui dans la basse, si j'y suis. Encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut tout le monde. Je suis en train d'écouter ton émission concernant les employés dans les aéroports parisiens. Voilà, je voudrais signaler que dans les sociétés de nettoyage, où il y a de la manutention et des travaux ingrats mal payés, il y a beaucoup de personnes d'origine maghrébine et que ça risquera de poser des problèmes car... notamment le nettoyage des bureaux se fait souvent, qu'il n'y a personne et tout. Bon, alors je suis sûr que ces employés-là vont avoir des problèmes. Autre chose aussi, lors de la première guerre du Golfe en 91, j'étais chef d'équipe dans une société de nettoyage où il y avait beaucoup de femmes maghrébines et je peux te dire que le premier jour de la guerre, ces femmes avaient très très peur du racisme contre elles. Voilà. C'est Philippe de Toulouse dont la grand-mère espagnole avait fui la misère était venue en France. Ciao.
Écoute, moi je comprends plus rien là. J'ai vu hier soir les manifs à la télé, les gens en colère qui attaquent nos bienveillants policiers, qui leur jettent des cailloux, des fumigènes, mais je comprends plus rien. On m'avait dit que c'était des voyous, que c'était des jeunes, qu'on m'avait fait comprendre que c'était surtout des enfants de noirs, des enfants d'arabes. Ça on me l'a pas dit, mais je suis tellement con que j'avais bien compris. Et puis là non. Bah non, hier c'était des pompiers. Les pompiers sont gentils, ils sont dévoués. En plus, il n'y a pas que des jeunes, hein. Et c'est des bons Français, même pour la plupart. Moi, ça me semble incroyable. Et ben, je vois ça comme une parabole, ou une leçon à retenir.
J'habite dans une banlieue, je porte la barre, je suis musulman. Moi, ce qu'on me repose, je ne sais pas. On a juste dit que j'étais en danger, et sans preuve, sans explication.
Bonjour, monsieur De Villiers. Je connais bien ce sujet. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les Mosquées de Roissy. Ça fait froid dans le dos.
C'est-à-dire, quand je suis un délinquant, je suis un beurre qui n'est pas intégré. Et quand je me mets à pratiquer ma religion, je suis un intégriste qui refuse la société française dans laquelle il vit. Même dans le droit chemin, je ne suis pas bien. Il me reste quoi, là?
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Dilatébi et Pascal Pascariello. Malheur au barbu, ça fait froid dans le dos. Flight number 2, arriving from
New York. Bonjour monsieur De Villiers, je connais bien ce sujet. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les Mosquées de Roissy, à l'aide de notes confidentielles secret défense, et qui établissent que le préfet chargé de la sécurité à Roissy, qui est un homme sensé et courageux, ne retire le badge que s'il y a des présomptions très fortes, c'est-à-dire si la personne est classée S+, jusqu'à S+15, c'est-à-dire susceptible de porter atteinte à la sécurité de l'État ou à la sécurité des voyageurs. Il faut quand même savoir de quoi on parle. Il y a des réseaux de bagagistes islamistes, maintenant c'est avéré.
Il y avait, puisque 72 habilitations ont été retirées.
Il y avait, mais il y a probablement encore des...
Mais il y a un risque d'injustice. Si ce garçon qu'on a entendu est véritablement tout à fait blanc-blanc, il y a une vraie injustice.
Mais je pense qu'il n'y a pas d'injustice, parce que si ce garçon s'est vu retirer son badge, c'est certainement parce que les services de sécurité, qui sont extrêmement sérieux, avaient des soupçons justifiés, et ça fait froid dans le dos.
Non, nous n'évoquerons pas les actuels problèmes que peut avoir la famille de Monsieur de Villiers avec la justice. On évoquera ce qu'il évoque dans cet entretien avec nos confrères de la télévision, c'est-à-dire l'affaire des mosquées de Roissy. Les affirmations de Philippe de Villiers se sont avérées tout à fait approximatives par les services français eux-mêmes, par le ministère de l'Intérieur lui-même, mais Philippe de Villiers n'en démord pas, il tient, on peut le comprendre, à son fonds de commerce qui se résume en une seule phrase: l'islam est le terreau de l'islamisme et l'islamisme est le terreau du terrorisme. C'est un fonds de commerce, laissons-lui sa petite affaire. Alors, néanmoins, on a une petite phrase là. Est-ce que ce jeune homme est tout à fait blanc-blanc, dit notre confrère. Qu'est-ce que ça veut dire être tout à fait blanc-blanc? C'est curieux quand même le langage, hein, si ben, on parle très vite, on fait pas toujours attention, mais il y a comme une sorte d'inconscient qui montre le bout de sa corde ou de son nez dans des expressions comme celle-là. On va voir nous aussi s'ils sont vraiment blanc-blanc, ces bagagistes-là. On a vu hier, c'est difficile de leur reprocher quelque chose de précis. On n'arrive pas à leur reprocher quelque chose de précis. On l'a dit, dans cette zone extrêmement sensible de Roissy, 80 000 personnes travaillent là, 750 entreprises, et évidemment pour la région, c'est un pôle d'emploi, mais c'est pas facile de se faire embaucher. Il faut montrer patte blanche là aussi, hein, blanc, patte blanche, et c'est pas facile du tout. Et surtout, il y a une très grande vulnérabilité face à l'emploi depuis le 11 septembre 2001. C'est que on peut, sur la simple décision du préfet responsable en charge de cette zone, se voir retirer le badge, le fameux badge qui donne accès à cette zone sensible. Et quand on n'a plus de badge, on n'a plus de boulot. Or, suite à ce livre qui avait été assez facilement critiqué, malgré tout, on a le ministre de l'Intérieur qui sera peut-être le candidat la présidence de la République, est peut-être élue, a tenu quand même à faire entendre lui aussi sa musique et à montrer son autorité en donnant ordre au préfet de faire supprimer les badges à 72 personnes. Qu'est-ce que ces 72, ça c'était au mois d'août, qu'est-ce que ces 72 personnes avaient en commun? Eh bien, tous d'être musulmans. Ah, quand même, c'est un peu bizarre. Alors, un certain nombre d'entre eux, 8-9 au total, ont cherché à en savoir un peu plus. Ils n'ont pas été satisfaits dans leur recherche des causes de cette mise à l'écart. Et ils ont décidé de saisir la justice, d'où ce procès à Bobigny le 7 novembre dernier. Et dès le début du procès, soudain, deux d'entre eux se sont vus réhabilités. C'est-à-dire que les badges leur ont été rendus aussi arbitrairement qu'ils leur avaient été retirés. Et puis, on l'a vu hier, les avocats de ces bagagistes ont été informés des raisons de ces mises à l'écart et de ces suspensions. Les raisons, il n'y en a pas, tout simplement. Alors, il y en a une, c'est le fait du prince, c'est des raisons d'État, c'est des raisons de sécurité. Donc, évidemment, ça laisse une série d'interrogations. Bien sûr qu'il faut assurer la sécurité, mais c'est assez curieux que ça se porte sur ces hommes qui, pour la plupart, travaillent depuis longtemps dans cet aéroport, dans cette zone. Certains sont en CDI. Évidemment, ça va pas sans problème dans leur vie quotidienne. Voilà avec qui nous sommes jusqu'à 16h, là-bas si j'y suis, sur France Inter, malheur aux barbus.
L'Europe est devenue le paradis des immigrés. En provenance de tous les coins du monde, ils s'y déversent par millions pour y accroître le chômage, y créer l'insécurité, y procéder à une colonisation à rebours. Mais dorénavant, ce sont aussi les trafiquants de drogue, les terroristes et les immigrés clandestins qui pourront circuler en toute liberté sans être inquiétés.
Peut-être qu'on reste cool, mais sur le guide qu'on gaz, on fait flipper la France comme la bouteille de gaz.
Secrète connexion,
un nom qui sort tout droit des rues de Paname. Deuxième sur l'instru et c'est ton étendard. Je me passerai bien de ton pays de facho, mais trop poids pas le deux. Je voudrais finir ma vie au soleil et m'éclipser en deux-deux. Et mec, je suis pas le peur qu'on tartine, ni celui qu'on baratine. C'est pas le paradis ici, parce que c'est l'argent qui domine. On se passera bien de ta France qui nous expose aux sales influences, nous pousse au vice, mais c'est encore les mêmes qui payent la sentence.
La peur du pickpocket quand on pénètre dans le métro. La vigilance des gens, tu crois que je la vois pas tous les jours. Elle fait qu'amplifier ma haine, me la ramène pour un long séjour. Je me passerai bien de tous vos héros historiques. L'éducation nationale et ses enseignants alcooliques, diaboliques. Et ce système qui dans la farine nous roule. Tout ça dans un pays qui aujourd'hui attire les foules.
Peut-être qu'on reste cool, mais sur le beat qu'on gaz, on fait flipper la France comme la bouteille de gaz.
Secrète connexion,
un mec qui sort tout droit des rues de Paname. Deuxième sur l'instru et c'est ton étendard qui crave.
On s'en passera, même un jour on se cassera. L'essentiel est bien, mais si on est plein, ça sera. Quand ça sera, tranquillement et en secret j'agis. Une situation ne change pas en un tour de magie. Je me passerai bien de ce doute, suis-je d'ici ou d'ailleurs. Le couscous ou la choucroute, la djellaba ou le tailleur. Ma véritable nation, j'y pense quand je suis seul. Moi je représente le piment, lui qui t'arrache la gueule.
Je me passerai bien de ces lois, double sens, donc tu te sers comme ta chaise. Car s'il y avait justice en France, ça ferait longtemps que t'aurais pris perpète. Perpète, perpète, perpète.
Ouais. Haroun, donc laisse, secrète, connecte, peut-être qu'on reste cool.
Et sur le beat ton gaz, on fait flipper la France comme la bouteille de gaz.
Secrète connexion,
un mec qui sort tout droit des rues de Paname. Du sien sur l'instru et c'est ton étendard qui crame.
Alerte à l'aéroport de Roissy, des armes et des explosifs ont été saisis dans la voiture d'un bagagiste. Préparait-il un attentat? Plusieurs zones d'ombre persistent d'après les enquêteurs. Bonsoir à tous, merci de votre attention. On commence donc avec cette découverte à l'aéroport de Roissy. C'était avant-hier, mais on ne l'apprend qu'aujourd'hui. 5 pains de plastique et 2 détonateurs dans le coffre d'une voiture. La police a immédiatement pensé à un projet d'attentat, mais il faut rester prudent. Le propriétaire du véhicule n'est pas fiché. Il s'agit d'un salarié irréprochable, selon son employeur. Aurélien Guillemin, Romain Potocki.
Une information qui fait froid dans le dos. Cette information que vous venez d'entendre, c'est une information qui fait froid dans le dos. C'est ce que disait TF1, c'est ce qu'on entendait sur TF1 le 30 décembre 2002. Et oui, un bagagiste peut en cacher un autre. Vous vous souvenez, l'histoire du bagagiste, le bagagiste de Roissy, c'était au début 2003. Le Monde en était certain, le journal Le Monde, le bagagiste de Roissy en contact avec les terroristes. France Inter s'interrogeait. Terrorisme ou grand banditisme? Le Parisien était en pointe sur cette affaire du bagagiste de Roissy. Le bagagiste de Roissy avait une bombe prête à l'emploi. Un autre titre, le bagagiste trahi par des traces d'explosifs. Un autre titre encore, le portable du bagagiste mène à la mouvance islamiste. Encore un titre du Parisien, la piste terroriste confirmée. Et ainsi, pendant 10 jours, ce bagagiste de Roissy détenu par la police. Et pourquoi donc? Parce que il s'appelle Abderrazak Besseguir, vous vous souvenez? Il avait été pris avec la police avait saisi des armes et des explosifs dans le coffre de sa voiture qui était stationnée à l'aéroport. Et au bout de 10 jours, on a découvert que il n'était absolument pas. D'ailleurs, il faut être juste et reconnaître que c'est en amorce dans l'information qu'on vient d'entendre, même si le titre est tonitruant et que l'effet d'annonce est plus fort que la nuance qui vient derrière. On a découvert que tout ça était un coup monté, vous vous souvenez peut-être, un coup monté par la famille de la femme de ce bagagiste. Cette femme était morte et sa famille accusait le mari, le bagagiste donc, de l'avoir tué. Il n'y avait donc aucune preuve, alors la famille s'est lancée c'est la famille qui s'était lancée dans ce coup monté, faire passer le bagagiste pour un dangereux terroriste, et ça a marché, sans enquête, sans recherche, sans précaution. Les médias ont accusé et condamné. En juin 2004, L'enquête aboutira à la condamnation de plusieurs personnes de la famille qui avaient monté cette affaire de toutes pièces. Le bagagiste, d'ailleurs, pour ce qui le concerne, a écrit un bouquin sur toute cette affaire. On voit donc, bon, c'est un emballement médiatique supplémentaire, mais on voit que le fantasme est très fort et le lieu porte au fantasme. On a oublié complètement, évidemment, cette affaire. On en a parlé souvent, c'est le principe de l'ardoise magique. On efface les choses du jour au lendemain, mais il y a quand même quelque chose, un lien entre cette affaire du bagagiste de 2002-2003 et aujourd'hui. Un bagagiste, eh ben vous allez en voir un à l'instant même qui va apparaître dans votre TSF. Il s'appelle le Karim Kerfouche. Il a été viré il y a une dizaine de jours. Au bout de 5 ans de CDI, son badge lui a été retiré. Il a été donc par voie de conséquence, il a été licencié. Puisqu'il a plus de badge, il est licencié. Sa boîte, c'est Chronopost. Il a été licencié la semaine dernière. Et ben, il a raconté à Adil Atebi qui il est, comment il vit tout ça, comment il voit tout ça. Karim Kerfouche.
Quand on faisait des conneries, quand on fumait du shit ou on vendait du shit.
C'est ce que tu faisais?
Je veux dire, bon, je faisais des conneries. Mais quand on faisait des conneries, qu'on brassait de l'argent illicite, gagné illicitement, ça veut dire on nous dit c'est pas bien, faut vous intégrer à la société, faut vous insérer, faut rentrer dans la vie active, faut être intégré socialement. Et quand on trouve un travail et qu'on essaie de stabiliser et de respecter l'ordre public et de rentrer dans la norme, d'avoir une femme, des enfants, être comme monsieur tout le monde et rentrer le soir à la maison, on nous court-circuite du système et de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faut qu'on retourne dans nos conneries. C'est-à-dire on sait plus comment faire. Et je tiens à préciser une chose, nous on n'a pas choisi l'islam parce qu'on était des jeunes désœuvrés, en perte d'identité, et qu'on a été récupérés par des fanatiques parce qu'on était dans une période vulnérable. Non, c'était pas ça.
Bah toi, justement, ça s'est passé comment?
Moi, je faisais des conneries, comme tout le monde, enfin presque comme tout le monde. Bon, je suis pas né dans le 16e, je suis né dans une cité. Donc, je vivais dans une cité avec tout ce que ça comprend comme comme activité, comme ambiance, etc. Mais moi, j'ai eu la chance que tout le monde n'a pas eu. En même temps,
que tu faisais des conneries.
Je faisais des conneries et mes bêtises. Et ben, j'ai pas lâché la corde des études. Donc, j'avais un pied dans les conneries, mais en même temps, je continuais mes études. Donc, j'ai passé mon bac. Et plus j'évoluais, plus je montais de niveau, et plus il y avait moins de jeunes, comme ils aiment bien le dire, issus de l'immigration. À la fin, je me retrouvais, j'étais le seul rebeu dans ma classe.
C'est-à-dire, c'était quoi ton parcours? Donc, le bac, un bac quoi?
Baccalauréat.
Dans quel domaine?
Technico-commercial. Ensuite, j'ai fait un DUT en technique de commercialisation. Et ensuite, j'ai fait un DUT d'histoire. Et j'ai pas choisi l'islam parce que c'était la dernière roue du carrosse qui me restait. Et c'était soit ça, soit je me suicide. Non. J'ai choisi l'islam parce que, en mon âme et conscience, j'ai fait un retour aux sources. J'ai étudié la langue arabe, j'ai appris l'arabe pour avoir accès, justement, à cet océan de science. Et ça m'a plu. Moi, ça me stresse. Et franchement, ce qui me stresse, c'est qu'on fasse passer les jeunes musulmans de France pour des gens c'est-à-dire qu'ont pas de cerveau et qui sont fait récupérer par des fanatiques et qu'ils ont choisi l'islam. C'est-à-dire, c'était l'ultime issue de secours. C'était soit ça, soit finir clochard dans une rue. Non. Moi, je me sens pas coupable d'avoir une barbe ou coupable d'être pratiquant. Je suis fier d'être musulman. Je suis français, certes, de nationalité, mais musulman de confession. Et je vois pas la contradiction ou l'incompatibilité entre une nationalité française et une confession musulmane. On peut être musulman et respecter les lois de la République. Parce qu'on m'a taxé d'intégriste et de fondamentaliste. Je suis désolé.
Qui ça?
Mais en fait, c'était inscrit sur la note blanche.
De l'UCLAT?
De l'UCLAT.
L'Union de coordination et de lutte antiterroriste.
Voilà, tout à fait.
Alors, l'UCLAT, justement, t'en parlais, a dit que tu es intégriste, fondamentaliste, que t'as fait des voyages. On a dit l'Inde, l'Arabie Saoudite.
Le Bangladesh.
Le Bangladesh aussi?
Le Bangladesh, le Pakistan.
C'était quand tout ça? Sachant que t'as 29 ans.
À peu près 9-10 ans, je suis parti en Inde, au Bangladesh, au Pakistan. Ils m'ont demandé pourquoi justement j'avais voyagé.
Qui ça, ils ?
Ils ne sont pas présentés, ni leur nom, ni leur fonction, ni
et
leur
où
statut.
Où est la préfecture ou...
À la PAF, la police aux frontières. C'était apparemment des gens qui travaillent pour la préfecture. Peut-être des policiers, je ne sais pas, ils ne sont même pas présentés. Bon, ils m'ont demandé des précisions, je leur ai dit oui, j'ai voyagé dans le cadre de ma formation spirituelle. Ils m'ont dit ouais, mais l'Inde, pour apprendre l'islam, je leur ai dit je suis désolé, l'islam, c'est pas juste le monde arabe.
Donc toi, t'es quoi, est-ce que ça se dit tabliri ?
Ça se dit pas. Moi, sincèrement, je me considère pas tabliri. Moi, je me considère musulman sunnite et j'adhère à cette philosophie pacifiste
qui est le tablir.
Qui est le tablir et... Tablir, ça signifie quoi ? Ça signifie la transmission. Ensuite, ils m'ont dit, donc, en gros, vous êtes un missionnaire. Je leur ai dit non. Je leur ai dit, c'est quoi un missionnaire ? C'est quelqu'un qui irait prêcher des non-musulmans afin qu'ils rentrent dans l'islam. Ils m'ont dit oui. Je leur ai dit, mais moi, qu'est-ce que je fais ? Moi, je vais voir des musulmans et ça vise à protéger le capital culturel des musulmans, la richesse des musulmans, pour pas que ça tombe dans l'oubli.
C'est pour ça que tu es parti en Inde et les autres pays ?
Les autres pays.
Le Bangladesh.
Le Bangladesh, pareil.
C'est le
pareil.
Pakistan ?
Pareil. Pareil.
Est-ce que toi, dans ta note, ou est-ce qu'on t'a demandé si t'avais été dans un camp militaire ou...
Non, on m'a pas demandé si j'avais été dans un camp militaire. Mais on l'a pensé tellement fort que je me suis dit peut-être ils s'imaginaient ces choses-là, mais j'ai jamais été dans un camp militaire. J'ai même pas fait mon armée française, j'ai été réformé. Donc voilà quoi, non. J'ai été dans le cadre de ma formation spirituelle. Et je le regrette pas.
Al-Qaïda rime souvent avec « Oh lolo, j'y vais pas ». Pour ramener les touristes dans les avions cet été, les aéroports de notre principauté ont pris des mesures exceptionnelles.
J'ai voyagé et alors ? Il y a le problème ? Il y en a qui partent en voyage pour la culture, d'autres qui partent, et c'est une réalité, pour du tourisme sexuel, d'autres qui partent pour chacun son délire. Moi, j'ai été pour la religion, je vois pas où il est le problème. Et le tablir, monsieur le ministre de l'Intérieur, a quand même intégré au CFCM cette association. Et je pense qu'il...
À laquelle t'appartiens ?
À laquelle j'appartiens. J'ai pas ma carte de membre, hein, c'est pas un parti politique. J'adhère à la philosophie, mais on n'est pas un parti politique. C'est-à-dire que l'idée qui vise à protéger le patrimoine musulman, c'est une idée que chaque musulman devrait avoir.
Quand on t'a retiré ton badge ?
C'était pas lié avec mes compétences professionnelles. C'est-à-dire, le retrait de badge, il a rien à voir avec mes compétences professionnelles. J'ai pas fait une faute professionnelle. On m'a retiré.
T'as pas négligé un peu la sécurité ou?
Ah non, du tout. Non, du tout. Au contraire, j'ai signé une attestation visant justement à rappeler à nos dirigeants et à signaler à nos dirigeants qu'il y avait des lacunes dans la sûreté. Si j'étais quelqu'un de malsain et de mal intentionné, je vois pas pourquoi je signerais une attestation pour signaler pour signaler des problèmes au niveau de la sûreté.
C'est-à-dire que toi, Karim Kerfouche, avec ta belle barbe,
ouais.
Avec ta main droite,
ouais.
T'es droitier, t'es gaucher ?
Droitier.
Donc avec ta main droite, t'as pris un stylo, t'as écrit sur une feuille que tous les dimanches, ici,
le PIF était désactivé, qu'il y avait aucun agent de sûreté et qu'on rentrait les mains dans la poche avec ce qu'on voulait. Donc il y en a qui ramenaient leur portable, leur Game Boy, leur sandwich, leur canette. Ça sonne même pas.
Toi, tu l'as signalé ?
Je l'ai signalé, ouais. Si j'étais pas réfléchi et si j'étais vulnérable, comme ils le disent, je serais retourné dans mes conneries et j'aurais fait mal. Parce que franchement, on se dit qu'est-ce qui se passe là ? C'est-à-dire, je me suis même dans le droit chemin, je suis pas bien. Il me reste quoi là ? C'est-à-dire, quand je suis un délinquant, je suis un beurre qui est pas intégré, et quand je me mets à pratiquer ma religion, je suis un intégriste qui refuse la société française dans laquelle il vit. Et si j'étais tellement vulnérable, eh ben, je me serais révolté, et là, j'aurais eu des raisons valables. Mais comme je suis pas, comme ils le prétendent, quelqu'un de vulnérable, j'utilise les moyens légaux pour me défendre et je continue à faire confiance en cette justice qui m'a, malgré tout, franchement, je le cache pas, j'ai été déçu par nos dirigeants, complètement déçu, des gens qui stigmatisent les musulmans, qui mettent les terroristes et les musulmans pratiquants dans le même sac, qui me traitent d'intégriste. C'est quoi ça ? Non, je suis pas un intégriste.
Tu parles de qui ? De Philippe de Villiers, par exemple ?
Philippe de Villiers.
Avec son livre.
C'est-à-dire, il a créé la psychose. Et ça a été récupéré par le ministre de l'Intérieur. Il a dû se dire, lui, il a écrit le livre, moi je vais passer à l'action, comme ça je vais récupérer ses électeurs. Et nous, on n'est pas bêtes, ça s'est passé à un instant T, on n'est pas loin des élections présidentielles, on sait qui est dans la course, on sait qui aimerait bien justement avoir le siège au sommet de la montagne, et voilà. Donc maintenant, il utilise cette psychose, cette peur, pour ramasser l'électorat de l'extrême droite ou de la droite extrême, et voilà. Et nous, on n'est pas ses pantins. Faut pas jouer avec nos destins à des fins politiques. C'est pas parce qu'il veut atteindre son but qu'il faut qu'il foute des pères de famille au chômage. Nous on a des destins, on a des loyers à payer. Lui peut-être il pense pas à ça. Il est bien au chaud dans son quartier, bien huppé, bien aisé. Mais nous on est dans la difficulté maintenant. Comment on fait? C'est-à-dire on est ni payé par l'employeur, ni payé par le système qui est prévu, c'est-à-dire les ACEDIC. C'est-à-dire on a rien là. Là on a rien. Et ça dérange personne, c'est-à-dire tout va bien. Ça veut dire qu'on n'a aucune rentrée d'argent. Mais ça, ça le dérange pas, tout va bien. Pendant qu'il y en a qui se baladent en costume, qui insultent des musulmans d'être des radicaux, nous on n'a rien là.
Et ça fait combien de temps que t'es à Chronopost? Enfin, que t'y étais, parce que t'as été licencié?
Ça faisait 5 ans.
2 ans d'intérim?
Et 3 ans CDI.
Et dès que t'es passé en CDI, t'as poussé la porte de la CGT?
Enfin, dès que je suis passé en CDI, j'ai été sensibilisé par les délégués syndicaux et j'ai intégré le syndicat par le biais des réunions qu'il y avait, des grèves, des mouvements de grève. Quand fallait manifester, j'étais là, voilà quoi. J'étais impliqué dans la lutte syndicale. Je pense pas qu'il y ait une incompatibilité entre l'adhésion au Parti communiste et une confession et une foi musulmane. Je pense que le communisme de 2006, c'est plus le communisme du temps de Marx ou Staline ou Lénine. Où être communiste, ça voulait dire être forcément athée. Non, maintenant on est en 2006, il y a des gens qui adhèrent au Parti communiste pour les idées politiques, justement parce que c'est un parti qui fait primer l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel. Et c'est un parti, et c'est un secret pour personne, qui ne délaisse pas l'intérêt des travailleurs au profit de l'intérêt du patronat, et qui au contraire apporte un soutien très très fort pour les travailleurs et très très fort pour les salariés, surtout les plus démunis, ceux qui travaillent dans des situations à droite, dans des situations parfois difficiles, et c'est bien de trouver un soutien auprès des syndicats. C'est pas parce que je crois en l'au-delà que je vais délaisser mon investissement dans cette vie ici-bas. Non.
Donc toi, tu t'inscris ici dans les luttes sociales?
Bien sûr, tout en croyant en l'au-delà. Pour avoir une bonne vie ici et une bonne vie dans l'au-delà.
Jackpot.
Jackpot.
Les preneurs d'otages avaient pour projet de se dissimuler en soute à bagages avant le décollage d'un vol long courrier et de le détourner pendant son voyage. Installés dans leur cachette, les terroristes s'apprêtent à faire péter en plein ciel une bombe démentielle. Ce qu'on ignore encore, c'est que les hôtesses en ont plein les fesses. Leur boulot leur sort par les yeux alors. La grève est votée et l'avion cloué sur l'aéroport. Pendant ce temps, dans leur cachette, les kamikazes s'inquiètent. Le temps passe, ils ont le trac et leur bombe fait tic-tac. Les passagers sont très en colère car leurs petites affaires sont toutes chamboulées. Et pour le reportage, la télévision se plaignent qu'ils sont tous pris en otage. Pendant ce temps, en bout de piste, on se dit chez les terroristes qu'on est vraiment peu de choses. Peu à après la bombe explose. Le lendemain matin, on lira dans le journal que le mouvement social, hasard ou destin, a sauvé de la mort 36 millionnaires de la classe affaire qui en tremblent encore.
Je préfère qu'on ait le risque d'un contentieux parce qu'on a été trop sévère plutôt qu'on se retrouve avec un drame parce qu'on n'a pas été assez sévère. Ainsi parle le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy au sujet de cette affaire des bagagistes de Roissy. Le principe de précaution a été mis en avant pour écarter les salariés musulmans. Le principe de précaution, c'est flou, c'est vague, il n'y a pas d'explication à donner, mais ça fait évidemment beaucoup de dégâts. Il faut surtout pas oublier de préciser que si les 72 privés de badge sont musulmans, pas mal d'entre eux, on vient de l'entendre dans la bouche de Karim, sont aussi des syndicalistes et certains avaient participé à des mouvements de grève. Donc on peut peut-être faire une certaine relation entre les deux. Donc 28 août, suite au retrait des fameux 72, France 2 diffuse un sujet où l'on voit une équipe de télévision s'infiltrer dans du parking de Roissy, l'un des parkings de Roissy, jusqu'au tarmac sans être nullement importuné ni arrêté. On montre que le système de contrôle ne fonctionne pas du tout. Donc on ennuie ses collaborateurs de certaines boîtes, donc on opposte, et on peut rentrer là-dedans comme dans du beurre, ou presque. Évidemment, aussitôt branle-bas de combat, dispositif renforcé, vigile, on réinstalle tout le système et cette fois-ci, on arrange tout bien. Et il y a l'épisode du 7 novembre, tribunal de Bobigny, les poursuites, la restitution de 2 badges, puis par la suite il y aura une restitution de 2 autres badges, tout ça vous avez suivi. Or, le 14 novembre, il y a quelques jours, une autre équipe de télévision de l'agence Reuters s'infiltre à nouveau de la même façon dans l'aéroport, passant du parking au tarmac pour montrer que le système de sécurité n'est pas aussi sérieux qu'on pourrait l'espérer et le souhaiter. Alors, que se passe-t-il? Là, à nouveau branle-bas de combat, émotion générale, et la gendarmerie de Roissy convoque l'un des témoins vus dans le film, Aziz Fadel, qui se trouve être délégué CGT de Chronopost Roissy, et les gendarmes disent on voudrait bien avoir votre, vous nous donniez quelques précisions. Alors nous voilà avec notre Dylan Tebbit dans une voiture vers Roissy avec Aziz Fadel qui va donner les explications qu'attendent les gendarmes à ceci.
Allô? Oui. Oui, vas-y, passe-moi les gendarmes.
Attends, on t'appelle de Chronopost, là.
Ouais, j'ai
de Roissy. Oui. Les gendarmes au téléphone.
Oui. Bonsoir. J'ai appris que vous me cherchiez. Je suis délégué syndical central CGT. Je suis membre du comité d'entreprise. Et puis, je suis conseiller prud'homme au tribunal de Bobigny. Voilà, vous êtes bien informé. Voilà.
Aziz, tu peux pas lui demander pourquoi il te cherche?
Pourquoi vous me cherchez, moi? La gendarmerie a eu une information comme quoi des journalistes pourraient peut-être aujourd'hui, ce soir, s'introduire.
Les gendarmes, ce soir, oui, sont là à Roissy, oui, à Chronopost, pas pour toi, mais parce qu'ils cherchent un journaliste, oui, qui devait s'infiltrer.
Voilà, ils ont une information qu'ils veulent vérifier.
Mais c'est qui ce monsieur avec qui tu parles?
Ah, j'ai pas demandé son nom. Hein, excusez-moi, monsieur le gendarme. Allô? Allô? Ah, ça a coupé. J'ai plus de batterie.
Je vais te passer le mien. Tu vois, au feu, à droite. Ouais. Et comme ça, on va rejoindre l'autoroute.
Mon téléphone était... Voilà. Oui, excusez-moi, j'avais plus de batterie. Je vous appelle d'un autre téléphone. Excusez-moi, vous êtes... Parce que je ne sais pas qui vous êtes. Vous êtes le commandant? Vous êtes gendarme de la GTA? Oui. Attendez, l'information que vous avez eue, c'est le maître chien qui vous l'a donné de Chronopost. Ah, donc, le responsable de la sécurité de Chronopost a parlé au maître chien qui vous a ensuite répercuté le fait qu'il y aurait eu peut-être une intrusion ce soir. D'accord, ok, ok. Bon, moi, en tout cas...
Mais Eric Zivetier dit qu'il n'y a pas d'intrusion, bah, il y a la diffusion d'un film.
Il y a une diffusion,
qu'il a mal compris.
C'est pas une intrusion, il y a une diffusion d'un film.
D'un deuxième film.
Oui. Ah, c'est diffusé en ce moment même sur toutes les chaînes. C'est un peu tout, c'est dans le monde entier. Il y a même les chaînes françaises, LCI, etc.
Tu veux pas lui lire le titre de la dépêche?
Attendez, si vous voulez, je peux vous lire le titre de la dépêche. Le titre de la dépêche, c'est... La sécurité chez Chronopost mise en cause par un film. La sécurité chez Chronopost mise en cause par un film. Un film montrant des personnes passant un paquet à travers une grille démontre, selon un responsable syndical, donc c'est moi, hein, puisqu'ils m'ont demandé de le commenter, la facilité avec laquelle des explosifs pourraient être introduits à bord d'un avion à l'aéroport de Roissy. Donc Aziz Fadel, délégué CGT chez Chronopost, a commenté mardi pour Reuters Télévision des images montrant ce qui ressemble à un bloc de pâte à modeler introduit à l'insu des services de sécurité dans un avion de fret. Il y a un tabou. On parle pas du fait que les entreprises respectent pas la sûreté aéroportuaire. Il y a un tabou. Alors qu'en réalité, on fait que notre devoir de citoyen. Sinon, ça serait pire. Ça serait être complice. On voit qu'il y a un tabou, les gens ont peur. Et c'est le contraire qu'on doit tous faire. On nous donne une formation nous disant il faut que vous réagissiez.
Comment ça une formation? Tu reçois une formation, c'est-à-dire?
Pour avoir le badge. Le badge, il y a une enquête. On fait une enquête sur la personne.
Le badge, le fameux badge.
Pour pouvoir entrer en zone réservée, il faut avoir un badge qui est délivré par la PAF, Police de des Frontières. Une fois qu'on a ça, on a une formation de 3 heures obligatoire, à peu près 3 heures. Et cette formation, on nous responsabilise, c'est-à-dire on nous dit, voilà, c'est votre responsabilité aussi. En gros, la sûreté aéroportuaire, c'est la responsabilité de tous ceux qui travaillent. Donc, si vous voyez quelqu'un s'introduire, si vous voyez quelqu'un faire un trou dans un grillage, ou si même vous avez votre patron, en gros, c'est votre patron qui désactive des postes inspection filtrage, c'est-à-dire des portiques, eh bien, vous devez le signaler.
Des portiques, comme moi, en tant qu'usager...
Quand on prend l'avion, c'est-à-dire le portique qu'on passe, qui détecte les métaux. Bon, et ben en final, les entreprises et les employeurs, plutôt certains employeurs comme Chronopost, au final, ils ne sont pas au-dessus des lois. Cette loi s'applique à tous, parce que quand même, c'est tous les citoyens qui prennent. Il y a une bonne partie des citoyens qui peuvent prendre un jour ou l'autre l'avion, et on doit nous garantir quand même un minimum de sécurité. On ne demande pas plus, mais quand même, on peut pas, en vertu de, pour renier ou pour avoir faire des économies, jouer sur la sécurité et la vie de toutes les personnes qui prennent l'avion.
Donc là, on arrive devant.
On arrive devant Chronopost.
La poste Chronopost.
Et donc, en face, on a Chronopost. Et je vais
donc
voir.
Là, c'est ici le fameux site.
Exact.
Où il y a une partie des bagagistes à qui on a retiré les badges. Et...
C'est ça.
Et c'est par là qu'on rentre pour bosser ou c'est ici qu'on va voir les gendarmes?
Ouais, là, on va au bout et à l'entrée pour les rencontrer. À l'entrée de l'entreprise.
Donc on est arrivé, on va voir les gendarmes. C'est possible de... Ah bah tiens, ils sont juste ici. 1, 2, 3, 4 gendarmes.
Et 2 fourgonnettes. Je vais leur présenter
la fameuse dépêche que tu as lue au téléphone.
Voilà. Bonsoir, je suis monsieur Fadel, délégué central.
On se serre tous la main. Asseyez-vous par téléphone.
Je vais vous demander de bien vouloir couper si vous voulez.
Mais pourquoi?
On va discuter entre nous à un instant.
Parce que là, il se trouve que monsieur a une dépêche. Très simple. Parce que là, ça concerne juste tout le monde, quoi. C'est énorme cette dépêche.
Et d'accord, mais après, vous verrez avec lui. Moi, je vais déjà voir avec lui. Après, pas de problème, hein, c'est pas un souci. Mais moi, à mon niveau, je peux pas me permettre de dire des quoi que ce soit. Et il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Camion derrière vous.
Vous faites tout à fait votre travail, on fait le nôtre, il n'y a aucun souci à ce niveau-là.
Bah, je vous laisse.
C'est simplement, je me réserve le droit de ne pas communiquer. Si vous voulez communiquer avec quelqu'un, ça sera un responsable de chez nous, ça, il n'y a aucun problème.
Bah, je vous laisse faire et après. Personnellement, après, on discute. Ouais, voilà. Ok.
Je vais juste
merci.
Pour ça, hein. Montrer ce que j'ai vu, c'est tout.
Donc Aziz, il part avec sa dépêche et ils se réunissent tous autour de la dépêche. Chacun lit le texte. Et là, les 4 gendarmes, ils ont des yeux gros comme des hublots.
Aziz part avec deux gendarmes. Aziz ? Aziz ? Alors ? Deux petites secondes. Je peux m'excuser, c'est urgent. Ah, parce que là, je suis juste un petit peu puni. Je dois pas dépasser ce grillage. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un cinquième
ça, c'est gradé. C'est un gradé qui est venu.
Gradé. Il est venu tout seul avec une Clio.
Rejoindre les autres. Et là, je vais leur montrer ce que j'ai vu sur le film. Où sont les endroits qui respectent pas la sûreté aéroportuaire. Donc, une dans l'entreprise, l'autre juste à son, sur son côté.
Et donc là, tu vas avec eux là?
Ouais.
Et ça va prendre combien de temps?
Ça va prendre 10 minutes.
Bien sûr.
10 minutes, ça prend...
Donc, c'est-à-dire que là, avec les gendarmes, pas tu vas refaire minutes, le...
10 minutes, un quart d'heure.
Tu refais le film.
Je leur montre ce que j'ai vu dans le film, donc ce qui va pas.
Là, donc vous avez fait une ronde à l'intérieur. Il y a encore un camion qui a déchargé, qui passe. Hein, il part. Il s'est passé quoi, là? T'es parti avec les gendarmes?
Ils ont réagi de suite. Ils ont réagi en professionnel. Ils ont tout de suite compris que c'était pas du tout conforme, pas du tout réglementaire. Et ils m'ont dit que ça allait tout de suite être réglé et notifié et réglé. Parce que quand on a des barreaux larges comme ça et qu'on peut faire rentrer ce qu'on veut, il suffit que quelqu'un soit de l'autre côté, c'est extrêmement grave.
Les gendarmes, ils partent?
Oui, ils partent. Et ils vont sûrement signaler ce qui se passe et j'espère que ça va se faire vite.
Donc deux petits fourgons et la Clio.
Il y a quand même un problème. On vient de leur montrer. Mais là, il n'y a plus personne. Ils sont partis pour aller le signaler. D'accord. Mais là, si un intérimaire, si quelqu'un, n'importe qui peut aller le faire là maintenant.
Mais t'as pas dit, on doit partir tous ensemble parce qu'on doit faire une réunion et on revient.
Non. Par contre, moi, je leur ai dit, franchement, vous êtes d'accord que c'est une brèche énorme dans la sûreté aéroportuaire. Mais une des nombreuses qui a été dénoncée à Chronopost. Encore une fois, quand le terme passoire avait été donné, c'est pas à la légère.
Il y a combien d'entreprises ici, à Roissy?
Il y a à peu près 700. 700 à ce qu'on entend, à peu près 700.
80 000 salariés, je crois.
Plus de 80 000 salariés.
Donc ça veut dire que Chronopost et les 699 autres entreprises, si on dit qu'il y en a 700, chacune gère sa zone de sûreté.
Et il la gère à sa façon. On peut en avoir un qui est vraiment citoyen, qui respecte les règles de sûreté aéroportuaire, puis un autre qui les respecte pas du tout, puis un autre qui les respecte à moitié.
Et Chronopost?
Avant le 28 août, on peut dire qu'on était au niveau 0 et peut-être moins 100 de la sûreté aéroportuaire, parce que clairement, quand le dimanche et les jours fériés, on désactive les PIF et qu'on ne met pas d'agent de sûreté, c'est pas le niveau 0, c'est que c'est purement condamnable. Purement condamnable, c'est s'il y avait eu un attentat, là, les responsables de la sûreté aéroportuaire à Chronopost étaient clairement complice.
Le canard enchaîné, le 16 août, c'est lui qui a révélé le truc.
Clairement.
Il a sorti un gros dossier. Le dossier, c'était le vôtre.
Il a mis par écrit et à destination de l'opinion publique ce qu'on avait dénoncé auprès du PDG directement, parce qu'on est responsable, on le dit, et le PDG est ensuite en charge de faire appliquer. Mais il refusait de nous écouter. Il a mis par écrit, encore une fois, ce qu'on a dénoncé par écrit au préfet. Le 24 juillet, on a attendu, et c'est le 16 août que le canard enchaîné, mais tout ça par écrit. Et il dit clairement, le dimanche, c'est désactivé.
Alors voilà, tout au cours de cette enquête, il était très difficile d'obtenir des informations ou des points de vue de la partie adverse, le préfet, etc. Impossible, refus, succession de oui, non, on peut pas communiquer, etc. Mais quand même, le patron de Chronopost, qui est en cause dans ces reportages, a voulu intervenir et donner son point de vue. Il s'appelle Thomas Lott, il est PDG de Chronopost et il nous répond.
Aujourd'hui, le site Chronopost est un site qui est conforme, qui est agréé par la préfecture, qui est visité, j'en suis absolument ravi, deux fois par jour par la gendarmerie des transports aériens, une fois le jour, une fois la nuit. Je prends, ça a été le cas en septembre, ça a été le cas en octobre. Bon, pour vous dire que la façon dont nous travaillons avec les autorités, c'est de façon extrêmement étroite, de façon à faire en sorte d'être vigilant. C'est vrai que sur le deuxième trimestre, il y a eu certains manquements, et qui sont des moments qui ne prêtent pas à conséquence, mais qui sont quand même des manquements, et sur lesquels, évidemment, on a mis en place les mesures appropriées, à la fois avec les autorités et à la fois avec les différentes équipes de notre groupe, pour nous assurer d'être ce qu'on cherche à faire, d'être une société sûre et d'apporter toute la sûreté, parce que la sûreté est au cœur de notre métier.
Oui. Thomas Lotte, est-ce que, oui ou non, on parlait du préfet justement, le préfet vous a menacé de fermeture administrative suite à la diffusion fin août 2006 d'un reportage qui montre qu'on pouvait rentrer jusque sur le tarmac, avoir accès aux avions avec ce qu'on veut.
Il est tout à fait normal que si nous n'avions pas...
Donc là, c'est une faute grave.
À nouveau, aujourd'hui, ce site est conforme et on a mis en place des mesures correctives pour s'assurer en permanence de sa conformité. Aujourd'hui, ce site n'a pas été fermé.
Vous avez eu des amendes.
Soyons précis, parce que vous êtes dans un mode un petit peu agressif par rapport à ça. On n'a pas eu.
Non, je suis pas agressif du tout, parce que comme vous avez un débit assez rapide, j'essaie juste de trouver ma place.
D'accord. Alors non, nous n'avons pas eu d'amendes pour l'instant. En revanche, il y a eu quelques procès-verbaux qui montrent effectivement qu'on a eu certains manquements qui viennent, dans certains cas, de Chronopost, d'autres qui viennent de certains salariés de Chronopost qui n'ont pas appliqué les consignes.
D'un côté, Chronopost, il y a des procès-verbaux suite à la constatation de faits, et d'un autre côté, il y a notamment deux salariés chez vous à qui on retire le badge et le contrat de travail sur la base de soupçons.
Il y a eu certains manquements de la part de Chronopost, c'est tout à fait exact. On a apporté des mesures correctives et le site a toujours été aux normes. Aux normes de sûreté, et si on a apporté ces manquements, on fait en sorte aujourd'hui de les rectifier. Encore une fois, ça demande de la vigilance en permanence, les réglementations évoluent et l'environnement évolue. Et dans beaucoup de domaines, on va plus loin que ce que l'exige la réglementation aujourd'hui.
Pour Chronopost, deux personnes donc chez vous ont eu un retrait de badge et il y en a au moins une qui a eu en plus, qui était en CDI hein, depuis pas mal d'années, qui a eu un retrait de contrat de travail.
Alors, soyons très clairs. D'abord, si ce salarié retrouve son badge, nous le réintégrerons immédiatement. Quelqu'un qui n'a pas de badge, malheureusement, on ne peut pas, et c'est prévu dans les contrats, d'accord, ça s'appelle une rupture de plein droit. Quelqu'un ne peut pas travailler sur ces sites. Si la personne retrouve son badge, évidemment, je serais ravi qu'on le puisse le réaccueillir sur le site.
Alors, il y a une personne juste à côté de moi qui est assez content d'entendre votre réponse. C'est Karim Kerfouche, donc un salarié chez vous. Il a envie de vous poser une question.
Bah, tout d'abord, bonjour. Je suis un ex-salarié de Chronopost. J'aimerais savoir pourquoi ne pas avoir attendu avant de me licencier que j'épuise toutes les voies de recours qui étaient en ma disposition.
Malheureusement, on ne procède pas de cette façon-là. Ce n'est pas le premier cas, malheureusement, que nous avons. Et on sera ravis de vous réaccueillir à partir du moment où tout ça est clarifié.
Mais on m'a même pas fait de proposition de reclassement. Alors que sur mon contrat de travail, il y a une clause de mobilité. Donc il est bien stipulé que je suis amené à éventuellement changer de site. Il y a plus de 50 sites en dehors de la zone réservée, dont un qui est à un quart d'heure de chez moi. Et voilà, on m'a pas fait de proposition de reclassement.
Malheureusement, j'en suis désolé pour vous, mais malheureusement, la situation est telle que sur l'ensemble des sites, on a besoin de s'assurer qu'il n'y ait aucun doute possible. Donc, dès que vous aurez à nouveau votre badge, je serai à nouveau ravi de vous réaccueillir.
Sans entrer dans les détails, dernière question. Vous-même, vous me dites oui ou non. Vous êtes le président de Chronopost, Thomas Lotte. Vous êtes, sans entrer dans les détails, concerné, vous, par une affaire en ce moment qui est dans un tribunal.
Alors, je vais vous dire, soyons très précis sur tout ça. Un collaborateur dans une société antérieure a fait une erreur. Et que cette erreur, les personnes morales, c'est effectivement moi qui l'assume, dont acte.
Là, dans le doute, on ne sait pas, donc c'est au tribunal en ce moment.
Absolument.
Donc vous êtes concerné par une affaire. Donc dans le fond, vous, le président de Chronopost et ce salarié Karim Kerfouche, dans le fond, vous deux, vous ressemblez beaucoup. C'est-à-dire que vous avez un dossier au tribunal. Il n'y a pas encore de décision, mais pour lui, le doute pèse sur ses épaules, mais pour vous, le doute ne pèse pas, vous gardez votre fonction.
Moi, je vais effectivement dans les zones réservées, quand j'en ai besoin. D'accord.
Mais sur place, les syndicats disent que vous ne pouvez pas rentrer dans la zone réservée parce que vous n'avez pas de badge.
C'est tout à fait inexact.
Donne pas de badge.
Je rentre dans la zone réservée. D'ailleurs, je viens de faire une demande de badge.
Du fait de cette affaire.
Je viens de faire une demande de badge pour ne rien vous cacher, que je vais aller chercher, je crois, dans la semaine qui vient.
Mais aujourd'hui, vous n'avez pas de badge.
J'ai pas de badge, j'en ai pas besoin aujourd'hui. D'ailleurs, j'y suis allé la semaine dernière et la semaine d'avant. Le site de Chronopost est un site sûr, est un site qui est conforme à la réglementation, et on s'assure d'être même dans
bon domaine en avance par rapport à la réglementation. Je vous prie m'excuser, c'est pas ce que je vous demande. Oui, mais c'est pas ce que je vous demande.
C'est ma réponse, monsieur. C'était pas du tout ce que on avait prévu en termes de et c'est pas du tout ce qu'on avait prévu en termes d'intervention, de temps d'intervention. Donc je suis désolé, mais je vais devoir vous laisser. Ah.
Excusez-moi, je lui ai demandé pour mon reclassement, il n'a pas répondu.
Voilà, on ne sera pas pour le reclassement de Karim Carfouche. Merci à tous. Merci à Aziz Fadel, à Thomas Lott, PDG de la société Chronopost. Toutes les informations sont disponibles sur le site France Inter à la rubrique là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site France Inter ou sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Elisabeth Collet et Eric Morin. C'est Yann Chouquet et Koyen Nguyen qui réalisent cette émission. Assisté de Pascal Le, Pascariello et de Christophe Imbert qui vous attendent près du répondeur au 01 56 40 37 37. Une reportage, émission préparée par Dilatébi et Pascal Le Pascariello.